Et si je vous promettais que plus jamais vous ne perdriez les affaires de vos enfants? J'ai en tout cas une solution ludique et créative à vous proposer, les étiquettes personnalisées Akies. En tant que premier fabricant made in France d'étiquettes personnalisées, Akies a pour vocation de faciliter la vie des familles avec des produits adaptés à toutes les situations. Étiquettes pour marquer les vêtements, autocollants pour identifier chaussures et fournitures scolaires, étiquettes pour cartables, mais aussi des produits personnalisés tels que les gourdes, les trousses, etc. Ces étiquettes sont vives, colorées et plairont, j'en suis certaine, à toutes les familles concernées par les rentrées en crèche ou à l'école. En plus, elles sont safe pour les enfants et l'environnement. Pour fêter ce nouveau partenariat, Akies vous offre moins 10% sur toute la boutique a-ki-s.fr avec le code PARENT, P-A-R-E-N-T, tout en majuscule. Profitez-en vite. En attendant, c'est parti pour l'épisode. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Solène, la fondatrice de la start-up EdTech Soft Kids. Après des années en grande entreprise en tant que DRH, Solène a découvert l'importance du développement des soft skills, ces compétences comportementales comme la confiance en soi, l'esprit critique, la créativité, etc., pour intégrer les entreprises. Elle a donc décidé de créer une application pour les enfants, pour les accompagner dans la découverte et l'apprentissage de ces soft skills qui seront utiles toute leur vie. Durant cet entretien, nous avons donc parlé d'entrepreneuriat dans l'éducation, des hard skills et des soft skills, du rôle des parents et avant tout, de la préparation de nos enfants au monde de demain. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Solène.
Bonjour Sylvie, bonjour Stéphanie.
Bonjour Solène.
Merci de nous accorder votre temps aujourd'hui pour parler de votre beau projet Soft Kids. Alors avant qu'on parle de cette aventure entrepreneuriale, j'aimerais en savoir plus sur votre parcours et notamment votre carrière professionnelle qui n'était pas initialement dédiée à l'éducation. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il s'est passé dans votre parcours pour vous intéresser aux soft skills et aux enfants ?
Alors moi j'ai une formation classique avec une licence en droit et un master en ressources humaines et puis j'ai intégré des grands groupes dans lesquels j'ai été RRH et DRH à l'international et il y a un grand groupe qui m'a plus marqué que les autres dans lequel je suis restée 13 ans qui était un groupe anglo-néerlandais dans lequel les soft skills étaient vraiment mis en avant et donc j'ai travailler donc avec ces anglo-néerlandais et avec beaucoup de cultures différentes puisque dans mon dernier poste je travaillais principalement avec les pays d'Asie dans lesquels en fait les compétences comportementales donc les soft skills étaient plus mis en avant que les compétences académiques, les hard skills. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, on m'a demandé de travailler sur les métiers de demain et les compétences du futur. Et quel allait être, en fait, l'impact de toutes ces nouvelles technologies, la robotisation, l'autonomisation sur nos profils de recrutement. Et donc, j'ai travaillé avec des cabinets de consultants sur ce sujet et c'est là que j'ai découvert que 65% des écoliers d'aujourd'hui, donc des enfants en primaire, feront des métiers qui n'existent pas encore. Donc je me suis dit, qu'est-ce que vont faire mes enfants et comment je vais les préparer pour ces métiers qui n'existent pas encore.
Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce que c'est que les soft skills ?
Alors en fait, il y a beaucoup de... on a l'impression que c'est difficile à traduire en français parce qu'on voit beaucoup de choses, les compétences socio-émotionnelles, les compétences comportementales, le savoir-être. Donc moi, je les oppose aux hard skills. Les hard skills, c'est tout ce qui est compétences académiques, donc c'est principalement les diplômes ou les compétences métiers. Et les soft skills, c'est tout ce qui relève du comportement. Donc ça va être la créativité, la collaboration, l'esprit critique, etc. C'est tout ce qui ne relève pas des compétences académiques et métiers.
Ok. Et alors, pourquoi s'intéresser aux soft skills chez les enfants ?
Alors, il y a deux choses. C'est qu'en fait, donc moi, quand j'étais DRH, donc les soft skills commençaient à devenir très importants. Je pense que, alors moi, dans mon entreprise, j'ai vu que c'était important vraiment dès le recrutement, puisqu'en fait, ça, je pourrais l'expliquer un peu plus en détail plus tard, mais en fait, j'avais été recrutée aux soft skills et pas au diplôme. Mais en fait, je voyais plein de collaborateurs et de aussi bien des collaborateurs avancés dans leur carrière que de jeunes collaborateurs, des stagiaires qui arrivaient, qui en fait étaient en difficulté parce qu'ils n'avaient pas les bons soft skills. Et donc, on mettait en place beaucoup de formations et on dépensait beaucoup d'argent pour que les collaborateurs aient les bons soft skills. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on attend d'être adulte et en entreprise pour commencer à parler de ce sujet ? Et puis évidemment, je suis devenue maman et pour mon fils aîné qui aujourd'hui a 8 ans, on a fait le choix d'une crèche parentale associative dans laquelle j'ai été extrêmement impliquée, dans laquelle je suis encore aujourd'hui impliquée avec mes jumeaux de 3 ans et où j'ai commencé à participer aux projets pédagogiques et où j'ai commencé à discuter avec la psychologue de la crèche de tel ou tel comportement des enfants, et j'ai commencé en fait à faire le lien avec les soft skills, le savoir-être que je voyais en entreprise et celui que je voyais dès la toute petite enfance, et je me suis posé la question de comment faire en sorte de développer ces soft skills dès la petite enfance, par exemple collaborer, vivre ensemble. Donc j'ai eu des discussions avec les professionnels de la crèche sur, par exemple, la manière dont on traitait les chamailleries entre enfants. Et en fait, dans la crèche parentale associative, la spécificité, c'est qu'on fait des journées de permanence. Donc, on est là de 8h à 19h en section, aux côtés des professionnels. Et un jour, moi, j'avais remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait un enfant qui pleurait, tous les enfants disaient « c'est pas moi » et se reculaient. Et donc, je disais aux professionnels, à votre avis, mais pourquoi ils disent « c'est pas moi, c'est pas moi » ? C'est parce que quand il y a un enfant qui pleure, vous, en tant qu'adulte, vous dites « c'est qui ?» Qui a fait ci, qui a fait ça ? Et donc, je leur disais, il est extrêmement important que dès la petite enfance, on apprenne à nos enfants le vivre ensemble et l'important, c'était pas de savoir qui a fait tomber le copain ou qui l'a mordu, etc. L'important, c'était de savoir si l'enfant qui pleurait avait besoin de réconfort et donc peut-être la meilleure approche, c'était de dire est-ce que cet enfant a besoin d'un câlin ? Est-ce que l'autre enfant peut lui apporter un doudou, etc. Et en fait, c'est pas un soft skill en soi, mais au départ, ça apprend à vivre ensemble, à avoir de l'empathie, à prendre soin des uns et des autres, et qui sont pour moi des compétences fondamentales.
Et parce que comment est-ce qu'on recrute aux soft skills actuellement en entreprise ?
Alors, c'est assez récent. Alors moi, en 2010, pour vous raconter mon entretien de recrutement, c'était pas en 2010, c'était en 2006. En fait, le recruteur n'avait pas du tout mon CV à côté de lui. Donc j'ai trouvé ça très bizarre. Il m'a absolument pas demandé de quelle université je venais, etc. Il a commencé à me demander de décrire un projet sur lequel j'avais travaillé et comment j'avais fait pour réussir à concrétiser ce projet et à aboutir. Ensuite, il m'a demandé de lui décrire une situation dans laquelle je devais travailler avec des gens qui étaient différents de moi. Et après, il m'a posé une question qui était « Qu'est-ce que la privatisation ? Pouvez-vous m'en dire les avantages et les inconvénients ?» Et puis voilà, l'entretien était fini. Et je me suis dit, c'est bizarre, il m'a pas du tout posé de questions sur mon parcours académique. Et en fait, quand je suis rentrée dans l'entreprise et que j'étais RH, j'ai un peu appris l'envers du décor. Et en fait, mon entreprise partait du principe que si on avait la volonté d'aboutir, c'est-à-dire si on allait au bout d'un projet et qu'on arrivait à le mener à bien, si on était capable de collaborer avec des gens différents, et j'étais dans une entreprise où il y avait 90 nationalités et on était obligé, parce qu'elle était entièrement ce que nous on appelait globalisée ou mondialisée, on était obligé d'être avec des collègues qui étaient d'une culture différente de la nôtre et d'être en interaction avec eux quotidiennement. Et si on arrivait à prendre un sujet, le décortiquer et à aller au-delà du pur sujet et voir des ramifications et qu'on avait une pensée qui était beaucoup plus, on va dire, large que juste traiter le petit sujet sans voir un peu quels pouvaient être les autres sujets connexes au sujet qu'on nous avait demandé de traiter, on partait du principe qu'on pouvait perdre n'importe quel métier. Et donc, à la fin de l'entretien, quand on avait réussi, on nous disait, bah voilà, il y a un poste en marketing, en supply chain, en finance, vous voulez aller où? Et après, moi, quand j'étais RH, je faisais des plans de succession, je faisais des comités de succession avec d'autres managers, et pendant mes 13 ans de carrière, j'ai vu des gens aller du marketing à la vente, de la vente à la finance, de la finance aux ressources humaines, et ça n'a jamais posé de problème, parce que les compétences comportementales étaient là.
Super intéressant. Et est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de soft skills, du coup, pour les enfants ?
Alors, pour moi, c'est vrai, quand j'ai commencé à m'intéresser aux soft skills pour mon fils aîné, je suis arrivée tout naturellement vers la pédagogie Montessori, parce que je pense que déjà, dans la pédagogie Montessori, il y a pas mal de soft skills qui sont mises en avant, telles que, chez Montessori, les enfants, c'est un petit peu des petits chercheurs, des petits inventeurs, ils vont tester quelque chose, le refaire, tester, le refaire. Donc, il y a tout ce qui concerne résoudre des problèmes, il y a tout ce qui concerne la créativité, la confiance en soi, et la confiance en soi, ça passe par l'autonomie. Et après, il y a plein d'autres sujets qui arrivent, par exemple le développement de l'esprit critique. Et moi, je pense que d'autant plus aujourd'hui, c'est extrêmement important quand on voit comment les fake news se propagent. J'avais encore une discussion avec mon fils il y a pas longtemps, il rentrait de l'école, il me disait « Ah, il y a un tel qui a dit ça !» Et je lui disais « Mais c'est une légende urbaine !» et voilà, et dès la primaire, en fait, il y a des fake news de l'école qui circulent. Donc, faut leur apprendre un petit peu à voir quel est le vrai et quel est le faux. Et voilà, il y a tout un tas de soft skills qu'on peut développer dès l'enfance. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet. Il y a même des prix Nobel qui ont découvert qu'en fait, les soft skills, il fallait vraiment les développer dès le plus jeune âge. Ils préconisent entre 5 et 12 ans. Et c'est des compétences qui font que les enfants vont être dans des conditions pour réussir aussi à l'école.
C'est ça, c'est que ça facilite aussi les capacités d'apprentissage, d'adaptation à un nouvel environnement, etc.
Ouais. Moi, il y a un livre que j'ai lu et que j'ai adoré qui s'appelle « Comment les enfants réussissent » de Paul Towse, qui est un Américain, et en fait, qui prend énormément de recherches qui ont été faites principalement aux États-Unis, et dans lesquelles il prend des enfants en fait qui sont dans des situations difficiles au niveau de leur environnement familial ou au niveau du lieu où ils ont grandi, et il montre en fait que en développant ces soft skills et ces compétences, et les enfants réussissent. Et par exemple, il y a beaucoup de clubs d'échecs dans les écoles aux États-Unis. Les clubs d'échecs, ça permet aux enfants de développer leur persévérance, de développer leur esprit d'analyse. Et c'est comme ça, en fait, que ces enfants, en fait, ont des meilleurs résultats scolaires.
Super intéressant. Et alors, c'est de là qu'est née votre idée du projet Soft Kids, si je me trompe pas. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu la genèse de votre projet et où vous en êtes aujourd'hui ?
Alors donc la jeunesse, comme je le disais, je pense que vraiment là où j'ai eu le déclic, c'est quand j'ai fait cette étude là sur quel type de profil allons-nous recruter, et en fait j'ai découvert que, comme je disais, 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore, mais qu'aussi 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Et là j'ai lu un rapport de l'OCDE où il listait les soft skills indispensables en 2030. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que on va parler que de ces soft skills pendant les recrutements et quand on est adulte? Et donc j'ai essayé de trouver un peu de littérature sur le sujet, et j'en ai principalement trouvé aux États-Unis et en Inde, parce que les Indiens s'intéressent beaucoup aux compétences comportementales. Et donc je me suis dit, comment faire pour développer donc ces soft skills auprès des enfants? Et alors j'ai eu l'idée de faire une application mobile, enfin qui est disponible sur tablette et sur téléphone. Pourquoi est-ce que je suis partie sur une application? Alors, parce que moi, je pense que s'il est bien utilisé, le digital et les outils numériques peuvent être vraiment de formidables leviers pour l'apprentissage. Et je me suis dit aussi que même pour les enfants qui étaient dans des situations pas très favorisées, tous les parents avaient un smartphone. Et dans mon application, il y a des parties gratuites et des parties payantes. Et en fait, n'importe quel enfant pourrait jouer et avoir accès à ses ressources numériques. Et donc, je l'ai pensé comme une bibliothèque des soft skills, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des programmes. Chaque programme correspond à un soft skill. Et dans ces programmes, il y a des jeux. Et c'est des jeux qui vont permettre à l'enfant de prendre conscience en fait des compétences qu'il a déjà. Et moi, je parle de cultiver. Je dis on cultive les soft skills parce qu'elles sont toutes plus ou moins en nous. Il faut juste qu'on en prenne conscience et qu'on les développe. Et d'ailleurs, on dit les soft skills se développent à tout âge. Donc, j'avais ça en tête, j'avais bien l'idée. Et ce que j'ai fait, j'ai quitté mon entreprise en 2019, et j'ai lancé cette application avec l'aide d'un développeur. Et j'ai commencé par un programme pour cultiver la confiance en soi que j'ai écrit avec un pédopsychiatre qui fait pas mal de séances avec des enfants et leurs parents, mais des enfants qui sont plutôt atteints de timidité, ce qui n'est pas du tout l'objectif de ce programme Soft Kids. Évidemment, les enfants qui ont des vrais problèmes de timidité, je pense que il faut qu'ils aillent voir les professionnels qui peuvent les aider. Là, c'est vraiment aider l'enfant à prendre conscience de ses forces, de ses qualités. On parle de super pouvoirs, de tous les choix qu'il fait dans la journée. Et à chaque fois, en fait, l'idée, c'est d'initier des discussions parents-enfants. En fait, l'écran n'est qu'un support. Donc je vais vous donner un exemple. On a le module sur les qualités, les super pouvoirs. Donc en fait, c'est un jeu de swipe où les enfants ils vont dire je suis organisé, je suis patient, je suis créatif, etc. Et y a des parents, ils vont nous dire mais je comprends pas, il a pas mis qu'il était organisé. Alors qu'en fait moi je le trouve très organisé. Et donc le parent derrière, il va discuter avec son enfant en disant tu te trouves pas organisé, pourtant le matin tu fais ton cartable tout seul, tu prépares ton goûter tout seul. Ou alors on a un module sur les choix pour que l'enfant prenne conscience du fait que il fait beaucoup de choix tout seul, même si quand on est petit on a l'impression que les adultes décident toujours pour nous. Et j'ai une maman qui m'a dit en fait avec votre appli j'ai découvert que ma fille ne choisissait pas ses amis, c'est que les enfants qui vont vers elle aimerait aller vers des enfants mais elle n'ose pas. Et donc à chaque fois, on essaye de faire en sorte que les réponses des enfants et la manière dont ils s'auto-évaluent génèrent des discussions avec leurs parents.
Super. Et cette application, elle s'adresse à des enfants de quel âge à quel âge ?
CP au CM2.
Ok, très clair. Alors, je voulais vous poser également une autre question. C'est au sujet de la conception, donc vous en avez déjà un peu parlé, mais comment vous avez décidé justement de vous y prendre en utilisant des jeux, comment vous avez choisi les soft skills qui étaient intégrés à l'application et même tout ce qui est autour de l'identité graphique. Je suppose que ça, vous avez dû faire pas mal de recherches à ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus?
Ouais, alors tout l'enjeu, ça a été vraiment de faire en sorte que ce soit ludique, parce que c'est vrai qu'au début, les gens me disaient « Ouais, t'as une super idée, mais je vois pas comment tu vas faire. » Et puis c'est vrai que si on dit à un enfant « Ah, viens jouer à ce jeu, tu vas développer ta confiance en toi ou tu vas développer ta persévérance », l'enfant, il va pas... Enfin voilà, ça, c'est pas forcément comprendre. Donc en fait, je me suis tournée vers la gamification, qui sont des techniques en fait qui permettent à l'enfant de, enfin, à l'enfant comme à l'adulte, hein, qui permettent d'apprendre en jouant. Et en fait, on a même plus l'impression qu'on apprend puisqu'on a plutôt l'impression qu'on joue. Donc, j'ai d'abord, en fait, l'univers graphique, il est parti du logo, mais en fait, dans le logo, il y a un arbre, parce que l'arbre, c'est quelque chose qui est très important pour moi. J'ai grandi dans une famille où on était entouré par la nature, on allait beaucoup se promener en forêt. Prénoms de mes trois fils sont issus de mon arbre généalogique. Donc voilà, ça avait une symbolique importante. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les enfants, dans le jeu, alors ils gagnent tout le temps. On perd jamais. Et en fait, à chaque fois qu'on répond, on gagne tout le temps des gouttes d'eau. Et les gouttes d'eau, en fait, elles permettent de faire grandir l'arbre de Soft Kids. Et donc, à chaque fois qu'ils font un module, ils gagnent des gouttes d'eau qui arrosent l'arbre et l'arbre grandit. Et donc, à la fin, moi, ce que j'aimerais faire et ce que je suis en train de regarder, c'est qu'on puisse vraiment planter des arbres en vrai pour que les enfants se disent que bon, ils ont joué, ils ont appris des choses sur eux, mais en plus, ils ont fait un geste pour la planète. Et donc ça, c'était la partie un peu gamification. Donc en fait, on gagne tout le temps des gouttes d'eau qui font grandir un arbre. Et puis, je pense aussi le côté temps en famille. Les enfants sont hyper contents de passer du temps avec leurs parents. Et c'est là où on a les meilleurs retours. Parce que souvent, enfin sur, on va dire, un module, un jeu sur deux, il y a une fenêtre qui indique « fais ce jeu avec tes parents ». Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, sur la partie design, il y en a beaucoup qui disent « oui, une appli, il suffit de la lancer comme ça ». Mais là, comme moi, je m'adressais à des enfants, je me suis dit « les enfants, c'est soit ils aiment, soit ils aiment pas ». Donc je peux pas faire quelque chose qui soit pas abouti. Donc voilà, donc on a beaucoup travaillé sur des couleurs qui soient pas trop criardes et qui apaisent, mais aussi avoir... des dessins qui puissent plaire aussi bien au CP qu'au CM2. Voilà, et on a essayé de trouver un univers qui fasse que l'enfant a l'impression d'être aussi dans un univers qu'il connaît et dans lequel il se sent bien.
Super. Et est-ce que vous êtes satisfaite de vos résultats à date ?
Alors, pour l'instant, on a un bon démarrage. On est à plus de 2000 utilisateurs. Ensuite, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire puisque pour l'instant, on a sorti trois programmes. Donc, on a sorti la confiance en soi, le vivre ensemble et la persévérance. Là, on a dans le prêt à être codé la gestion des émotions, l'esprit critique et la diversité et l'inclusion. Et je pense que plus on aura de programmes, plus en fait, voilà, la bibliothèque sera complète et plus on aura d'utilisateurs.
Et ce que vous me disiez aussi quand on s'est appelé avant l'enregistrement, c'est que vous aviez également un super beau bon taux de transformation. Peut-être que vous pourriez nous expliquer mot et ce que ça veut dire.
En fait, les statistiques mondiales des applications, en fait, il y a ce qu'on télécharge. Donc nous, notre application, elle est en freemium, c'est-à-dire que on a à chaque fois des niveaux gratuits dans les programmes. Et puis après, on a toute une petite base d'outils. Par exemple, on a un outil de cohérence cardiaque qui est gratuit. On a des exercices de sophrologie qui sont gratuits. On a des défis à faire en famille. Par exemple, on a le défi compliment où on décide que pendant tout le week-end, le frère, la sœur, le père, tout le monde va se faire des compliments. Et à la fin, celui qui a fait le plus de compliments, il a gagné un temps en famille. Du type pique-nique, soirée cinéma, jeux de société, etc. Et en fait, donc après, il y a la partie payante. Donc nous, nos programmes, ils sont à 4,49€. Et nous, on a un temps de transformation, c'est-à-dire entre la personne qui essaie la partie gratuite et qui passe à la partie payante, on a 13%, alors qu'en fait, les statistiques mondiales sont à 3%. Donc on est bien au-delà des statistiques, quoi.
Super. Et est-ce que vous savez si cette application elle est utilisée dans le cadre scolaire aussi ?
Alors pas pour l'instant. On est en train de travailler dessus parce qu'en fait on a une interface enfant, une interface parent. Je l'ai pas précisé, mais les parents en fait découvrent un peu les réponses de leurs enfants, mais aussi ils ont des astuces. Il y a une partie blog avec des articles. Et là, en fait, on est en train d'adapter l'application d'ici le mois prochain pour qu'en fait l'interface parent puisse aussi être disponible pour les instituteurs. Par exemple, là, on a une agence de jeunes filles au pair qui va travailler avec nous et qui va en fait mettre à disposition notre application auprès de toutes leurs jeunes filles au pair pour que l'outil soit un outil pour qu'elles apprennent à connaître les enfants. Donc voilà, donc on va développer toute cette partie un peu plus qu'on appelle dans notre jargon B2B pour que ce soit accessible aux écoles, aux périscolaires.
Super. Et comment est-ce que vous pensez que les enfants pourront par la suite valoriser ces acquis-là ?
Alors, je pense que le fait qu'on on mette des mots sur ce qu'ils font, parce que bon, même si, par exemple, le programme Confiance en soi, il s'appelle Bien dans ses baskets, le programme Persévérance, il s'appelle Je peux le faire. Mais en fait, voilà, c'est des mots on met des mots sur des comportements, et donc je pense qu'ils en prendront conscience et qu'ils arriveront certainement mieux à le vendre quand ils commenceront leur premier stage ou quand ils voudront s'investir dans l'associatif. Et après, ce sera des compétences qui feront partie d'eux et qui valoriseront aussi bien que leurs compétences académiques, je pense.
Super. Alors, j'aimerais bien demander maintenant à Sylvie, qu'on n'a pas encore entendu, qu'elle en pense de tout ça, parce que je pense que avec ton héritage montessorien, il y a beaucoup de choses qui doivent résonner en toi avec ce projet. Peut-être que Sylvie, tu peux nous donner ton point de vue à ce sujet.
Oui, bien sûr. Ben, comme le disait Solène, ce sont des valeurs qui sont extrêmement développées dans la pédagogie Montessori dès le plus jeune âge. Donc, moi, je peux être qu'en phase avec ce qu'elle déploie avec cette application, puisque nous, on veut vraiment développer en priorité les soft skills, notamment la confiance en soi, l'autonomie, l'attitude en société, mais aussi accepter les erreurs, travailler sur ces erreurs, et les accepter l'échec, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental à développer chez les enfants tout petits, et qui va forcément les aider à dans leur vie d'adulte, hein, c'est ça le but en fait, c'est de les aider dans leur vie d'adulte. Et je trouve très bien aussi que ce côté lien avec les parents, parce que je pense que souvent les parents, ça peut aider vraiment les parents à mieux connaître leurs enfants et justement à les aider à développer ces soft skills qui sont si importantes. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et puis voilà, donc nous, c'est aussi ce pourquoi on a été appelé pour développer le bachelor Montessori à l'ESCE, qui est une école de management, parce que c'est justement les soft skills qu'ils se sont rendus compte qui étaient beaucoup plus importants que les hard skills pour les étudiants qui vont travailler dans le management plus tard. Donc, si on peut développer ces qualités beaucoup plus tôt, je pense que c'est très important quand l'enfant est en pleine construction lui-même. Donc, moi, je suis vraiment à fond pour ce genre de projet qui va vraiment aider beaucoup, beaucoup les jeunes, je pense, dans leur vie d'adulte.
Merci beaucoup Sylvie. Je ne sais pas Solène si vous avez envie de réagir à ce que vient de dire Sylvie.
Non, mais je suis tout à fait d'accord évidemment. Pour moi, c'est des compétences non seulement indispensables. Oui, c'est vrai pour les métiers de demain et peut-être pour l'employabilité de nos enfants. Mais moi, au-delà de ça, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est le vivre ensemble, accepter les compétences des uns et des autres et de comment nos enfants sont. Et c'est vrai que moi, les meilleurs retours que j'ai de l'appli, c'est sur cette relation parent-enfant. Et je pense que on est tellement tous happés par notre quotidien qu'on prend pas forcément le temps d'observer nos enfants. Et ils se voient de manière différente par rapport à nous, comment on les voit. Et si on peut avoir des outils qui nous aident à mieux les percevoir et qui nous aident à discuter avec eux et à comprendre un petit peu, des fois on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans leur petite tête, ça peut qu'être bien, puisque ça fera des adultes qui seront vraiment épanouis et, comme je le dis dans le premier programme, bien dans leur basket. Et c'est super important pour la société en général.
Bien sûr. Et vous parliez au tout début du fait qu'en Inde, c'était quelque chose qui était beaucoup plus développé. Vous pourriez nous en parler un peu plus de comment ils le développent dans les autres pays où ils sont plus avancés à ce sujet ?
Alors, en Inde, en fait, il développe à l'école. Et à l'école, et j'avais vu d'ailleurs un reportage d'une école en Inde où j'avais, enfin, ça m'avait fait halluciner parce qu'en fait, ils ont des notes de soft skills. Et en fait, les instituteurs les notent par rapport aux soft skills et leur disent voilà, sur tel ou tel soft skill, tu es très bien ou il faudrait que tu t'améliores un peu ou voilà. Donc je m'étais dit ouais, ils poussent quand même le truc très loin. Et par contre, aux États-Unis, ils parlent plus souvent de life skills que de soft skills. Mais en fait, quand je regarde un petit peu les life skills des États-Unis, c'est très très similaire à Montessori pour plein de choses, du type apprendre à son enfant à s'habiller tout seul, apprendre à son enfant à se présenter, apprendre son enfant, enfin toutes les choses du quotidien en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez valorisé dans les écoles, mais plutôt privées.
Super intéressant. C'est bien ce que je me demandais, si est-ce que dans d'autres pays, c'était déjà pas intégré au programme scolaire, parce que si je me trompe pas, en France, on est quand même un peu loin de tout ça.
Non, et ben justement, la semaine dernière, j'étais dans une conférence américaine où plein d'instituteurs, je pense que c'était niveau collège, discutaient de comment intégrer les life skills, les soft skills dans les programmes scolaires.
Super intéressant. Ah, c'est super. Et quels sont vos grands projets pour Soft Kids pour cette année, mais même pour les années suivantes? Où est-ce que vous aimeriez voir cette entreprise arriver d'ici quelques années?
Un des grands projets, c'est l'internationalisation, parce qu'en fait, l'application, elle est disponible aussi en anglais, mais pour l'instant, on n'a pas fait énormément de communication en anglais, donc il faut qu'on travaille là-dessus, mais l'idée, c'est d'avoir une appli disponible dans le monde entier. Et la deuxième chose, alors je suis un peu comme Sylvie qui me disait qu'elle avait commencé l'école Montessori petit pour ses enfants et puis qu'elle avait été jusqu'à la terminale. Moi, j'ai commencé par la primaire et j'aimerais aller jusqu'à la terminale.
Ouais, super.
Parce que, par exemple, quand je vois qu'il y a un grand oral au bac, en fait, il n'y a personne pour apprendre aux enfants à comment faire le grand oral. Qui est le prof de grand oral? Donc je pense qu'il y a encore plein de soft skills, et à chaque fois je parle des soft skills, mais j'ai toujours plein d'idées en tête. Comme je disais, je pense que je vais faire des programmes sur les stéréotypes, je vais faire des programmes sur les fake news, donc il y a tellement de choses sur lesquelles en fait on peut tellement de leviers sur lesquels on peut travailler pour en fait aider les enfants à cultiver ces compétences comportementales, que je pense que voilà, il y aura toujours du travail pour les 10 prochaines années. Hein.
Ça, c'est super. Sûr. C'est sûr. Alors, on arrive déjà à la fin de cette conversation, mais j'aimerais vous poser une dernière question. Je sais que dans les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui hésitent à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale dans le monde de l'éducation. Et je sais que vous êtes très investie dans les sujets de l'éducation et de la tech, notamment à travers le réseau EdTech. Donc, je ne sais pas si vous avez des conseils à donner à ce sujet, des choses à lire, à suivre pour toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer dans cet environnement-là.
Alors, sur les EdTech, il y a beaucoup de choses, et aujourd'hui, il y a même une association, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, donc faut pas hésiter à s'informer. Après, moi, je trouve que depuis le confinement, les gens, en fait, se connectent beaucoup plus les uns avec les autres. C'est-à-dire que moi, avant le confinement, les gens, par exemple, me contactaient sur LinkedIn en me disant « je voudrais faire partie de votre réseau ». Maintenant, ils me disent « je voudrais faire partie de votre réseau et j'aimerais discuter avec vous parce que ce que vous faites, ça m'intéresse ». Et moi, toutes les semaines, j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent « ah, mais j'aimerais discuter avec toi pour savoir comment t'as fait ». Et c'est beaucoup plus facile maintenant. Donc, je pense que quand on a un sujet qui nous intéresse, faut pas hésiter à discuter avec des gens qui sont passés par là pour avoir des conseils. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde est accessible. Enfin, la semaine dernière, je discutais avec une docteure en neurosciences qui, en fait, travaille sur les soft skills, mais pour les adultes. Et je pense que c'était une personne auquel j'aurais pas eu accès il y a un an, mais aujourd'hui, tout est beaucoup plus ouvert. Donc, faut pas hésiter, en fait, à demander aux gens des conseils.
Et dernière question, il me semble que vous n'aviez pas de formation en tech ou en développement informatique et vous êtes quand même lancée dans un produit tech. Comment vous y êtes prise? Comment vous êtes formée à ce sujet?
Alors, j'avais pas de formation, mais j'ai toujours été curieuse. Enfin, depuis que je suis toute petite, je bidouille un peu. Tout ce qui est informatique. J'ai fait mon premier site internet. Je crois que c'était en 2002 ou quelque chose comme ça.
Génial.
Donc, j'avais toujours le coder des choses. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même fait une petite formation en code parce que je me suis dit, je vais avoir besoin d'un développeur et entre guillemets, j'ai pas envie d'avoir l'air d'une cruche quand il va me parler. Donc, j'ai fait quelques week-ends de formation de code, mais c'était vraiment les bases pour pouvoir parler. Et puis après, j'ai trouvé le bon développeur et ça se passe très bien. On travaille en binôme, en fait. Moi, je lui envoie les contenus et puis lui, il code dans la journée et puis on refait un point. Et pour l'instant, il y a rien où je me suis dit, ouais, je comprends pas ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Enfin, ça fonctionne très bien.
Ok. Super intéressant. Mais merci beaucoup, Solène. Merci pour votre temps et bravo pour votre beau projet qui a beaucoup d'avenir.
Merci à vous de m'avoir reçu sur ce podcast. Ça m'a fait très plaisir.
Merci, au revoir.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.